Voilà, frères et sœurs. Tiens, ça
m'ouvre. Merci d'avoir incarné. Tu veux que je parle de
relais ? Voilà. Je sais pas. Alors, frères et sœurs, moi aussi, c'est le premier culte que je vis avec vous depuis que 2023 a commencé. Ça me fait un peu réchauffer, mais j'aimerais en tout cas vous souhaiter une année 2023 paisible, durant laquelle la recherche de la volonté de Dieu deviendra la source de votre bonheur au quotidien. Comme on le disait tout à l'heure, c'est Cali, je crois, qui disait ça, quand on souhaite des vœux aux gens, bah c'est vrai que nous savons qui porte notre avenir, qui porte notre espérance. Nous savons que nos temps sont dans la main de Dieu. Et finalement, quand nous souhaitons une bonne année à quelqu'un, c'est un petit peu dans notre cœur, comme si nous lui disions que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et que Dieu soit la source de votre bonheur selon sa volonté. Alors, comme nous l'a fait comprendre Cyril avec cette belle couronne de lumière, nous aurons besoin de construire l'Église ensemble. Nous aurons besoin de nous retrouver souvent pour nous édifier, nous éclairer, nous illuminer peut-être même mutuellement pour prier les uns pour les autres. La vie est difficile pour certains, certaines d'entre vous, et la vie chrétienne, ainsi que la vie de l'Église, se complique dans la société de plus en plus païenne qui est la nôtre. Mais nous savons, frères et sœurs, que Christ demeure le même, que Dieu est fidèle et qu'en lui réside notre force, notre paix et notre espérance. Nous vivrons des moments communautaires, notamment lors des cultes, des réunions de prière, des groupes de maison, des études bibliques. Mais chacun de nous ressentira aussi la nécessité de temps de calme et de solitude, peut-être pour rallumer la lumière qui est en nous. Alors je ne vais pas chercher ce matin à vous entraîner dans une attitude individualiste, bien sûr. L'individualisme et l'égoïsme détruisent notre monde. La Bible nous appelle au contraire, comme nous l'a redit Cyril, à faire corps. Mais je voudrais vous inviter maintenant à trouver des moments pour allumer cette lumière, pour la rallumer à la flamme de l'amour de Dieu. Je voudrais vous inviter au ressourcement, à trouver du temps pour rencontrer personnellement le Seigneur et goûter en lui la joie du salut. Solitude et silence complètent les moments communautaires. L'un ne va pas sans l'autre. Et la solitude et le silence peuvent devenir des occasions pour une rencontre bien particulière. La Bible va nous apprendre ce matin que le Seigneur peut les habiter. Il nous rejoint à travers nos sœurs et nos frères. Il nous rencontre aussi dans le silence et parfois même dans le vide de nos existences. Alors on va commencer par reméditer, parce que je vous l'ai déjà fait méditer depuis cette chaire il y a quelque temps, mais c'est un texte tellement riche que je voudrais vous le proposer à nouveau ce matin pour commencer notre réflexion. C'est dans le premier livre des rois, là tu peux nous le mettre, au chapitre 19. Non, c'est avant. Voilà, merci. Au chapitre 19, les versets 8 à 13. Élie se leva. Il mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Il arriva là, à la caverne, et y passa la nuit. La parole du Seigneur lui fut adressée. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répondit, « Je suis passionné pour le Seigneur, Dieu des puissances. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et l'on cherche à m'enlever la vie. Le Seigneur dit, sors et tiens-toi sur la montagne, devant le Seigneur. Voici, le Seigneur va passer. Il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant, qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruissement d'un souffle ténu. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Une voix s'adressa à lui. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Amen. Élie faisait partie de ces gens prisonniers d'un activisme forcené, et même d'un activisme forcené au nom de Dieu, capable même de violence sous prétexte de servir l'Éternel. Je suis passionné pour le Seigneur. Ça, c'est bien. J'espère que vous êtes tous passionnés pour le Seigneur. Mais attention, je suis passionné pour le Seigneur, Dieu des puissances. Mais sa passion, son zèle, l'a poussé aux pires extrémités, à des excès sanguinaires que Dieu ne lui avait pas demandé. Voilà peu de temps qu'il avait fait saisir les 450 prophètes de l'idole Baal. Il les fit descendre, nous dit la Bible, dans le ravin du Kishon, où il les égorgea. Voyez, Élie était prêt à tout pour faire triompher la cause de son Dieu. Après un tel massacre, le voilà maintenant réduit à une fuite solitaire. La reine Jézabel le poursuit de sa haine et de son désir de vengeance. Et Élie, le triomphant, le prophète de l'Éternel, même lui, fait l'expérience du découragement, même de la déprime. Il s'assit sous un genêt isolé, il demanda la mort et dit « Je n'en peux plus. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » Voilà l'épuisement qui nous guette quand on veut trop bien faire. Alors, parfois, on n'a pas le choix, hein, dans les situations qui sont les nôtres. Parfois, on est entraîné dans des tourbillons qui nous dépassent. Mais parfois, nous sommes pris aussi dans un dévouement associatif sans limite, dans la multiplication des activités, même dans l'Église, dans un engagement professionnel démesuré, avec une vie familiale surchargée. Dans le zèle du ministère, parfois aussi, on croit servir le Seigneur. Méfiance, méfiance. Il se pourrait que l'on cherche à sauver le monde par nos propres œuvres et à forcer le royaume des cieux. Vous savez, Jésus nous dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Il n'a pas besoin de nous. S'il nous prend à son service, c'est pour nous, pour que nous puissions le glorifier dans notre vie. Mais il pourrait très bien se passer de nous. Et la vanité de nos efforts, quand ils sont démesurés, bien entendu, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, hein, la vanité de nos efforts apparaîtra tôt ou tard. Parce que, parfois, on a cherché, comme Élie, à servir avec orgueil celui qui est le plus humble des serviteurs. On a donné, 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 en oubliant que Dieu, en Jésus-Christ, nous a tout donné, déjà. Nous avons fait usage de la force quand le Seigneur ne réclamait que l'amour et la foi. Élie est en train d'apprendre cela. Dans son épuisement, il redécouvre sa faiblesse. Et c'est bien, parfois, de redécouvrir sa faiblesse. Et dans cette faiblesse, C'est de Dieu lui-même et de Dieu seul qu'il reçoit la force de poursuivre sa route. Élie se leva. Il mangea et but, comme nous l'avons fait tout à l'heure en prenant la scène. Et puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Élie se prépare à la rencontre par cette longue marche jusqu'au lieu où Dieu s'était jadis révélé à Moïse. Et dans cette dépendance, dans cette faiblesse, dans ce manque, son cœur s'ouvre. 40 jours et 40 nuits, comme Jésus plus tard, beaucoup plus tard, dans le désert. Dans le dénuement le plus complet, Dieu se rend pleinement présent. Voyons dans l'étude biblique de cette semaine que Ananias, le chrétien de Damas qui va retrouver Paul après sa conversion, s'entend dire par Jésus lui-même que Paul est un instrument que Dieu s'est choisi. Et je faisais remarquer que le terme utilisé dans la Bible, c'est un vase vide. Nous avons parfois besoin d'être entièrement vides pour que Dieu vienne nous remplir et nous utiliser. Donc Dieu se rend présent dans ce dénuement d'Élie. C'est dans la pauvreté et le silence qu'Élie va rencontrer le Dieu. Et quel Dieu ? Oui, Yahvé, le Dieu d'Israël, le Dieu des puissances, mais surtout pour nous, le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. « Pourquoi es-tu ici, Élie ? » demande le Seigneur. « Je suis passionné pour le Seigneur, Dieu des puissances. Je suis resté moi seul et l'on cherche à m'enlever la vie. » Élie aimait Dieu, cela ne fait aucun doute. Il aimait Dieu passionnément, mais à la manière humaine, avec jalousie, avec emprise. « C'est mon Dieu à moi, il fera comme je veux, et peut-être pas forcément comme lui veut. » Avec violence parfois. Alors Élie doit apprendre l'amour à la manière de Dieu. Il était passionné, comme il le dit, du Dieu des puissances. Il vit maintenant une autre passion, la passion du Dieu qui choisit de renoncer à sa puissance, du Dieu impuissant dont on cherche aussi à enlever la vie, Jésus le Seigneur. Dans la persécution, Élie s'unit à la souffrance qui est celle de Dieu, de ce Dieu que l'on rejette dans le monde. Victime de la violence des hommes, Élie découvre aussi la patience du Seigneur. Dans la solitude et la détresse de celui qui est persécuté, Élie rejoint celui qui a été rejeté par les hommes, celui qui sera abandonné de tous sur la croix du Golgotha. Élie aurait pourtant dû le savoir. Il n'avait pas lésiné sur les moyens pour le prouver. L'Éternel n'est pas le Baal de la reine Jézabel. Baal, c'était le dieu de l'orage, du tonnerre, de la foudre. Mais le Seigneur n'est pas justement dans le vent fort et puissant. Il n'est pas dans le tremblement de terre. Il n'est pas dans le feu. Il n'est pas dans toute cette violence. Il va se révéler au contraire dans la douceur. Marie-Luc me disait ce matin que le Seigneur est doux. Rappelons-nous vraiment, profondément cela. Il n'est pas dans les ébranlements du monde. Il habite dans le secret du cœur de l'homme. Il est cette flamme qui nous illumine, qui nous réchauffe. Il ne détruit pas. Il donne la vie. Après le feu, nous dit encore le texte, il y eut le bruissement d'un souffle ténu. Alors en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Dans la voix du silence, Le prophète reconnaît qu'il se trouve là maintenant, en présence de celui qui est doux, en présence du Seigneur. Le silence révèle et sauvegarde en même temps le mystère de Dieu. Il révèle sa grandeur, la grandeur du Créateur, et son humilité du Créateur intimement présent au cœur de notre vie. Démuni, Élie accueille la présence de l'ami. Il ne lui reste plus que cette voix, la plus faible et pourtant la plus forte, qui est celle de Dieu, au plus intime de lui-même. Dieu est le tout proche qui murmure les signes discrets de sa présence dans notre vie et dans le monde. Il est cette brise légère, ce souffle ténu qui ne peut être ressenti que dans la solitude et le silence de la prière. On va poursuivre notre réflexion avec un autre texte. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, les versets 22 à 33. Encore un texte qui parle de tempête et de silence. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Et après avoir renvoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par les vagues, le vent étant contraire. Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. « C'est un fantôme » disaient-ils. Et de peur, ils poussèrent des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi. » « N'ayez pas peur. » S'adressant à lui, Pierre lui dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »« Viens, » dit-il. Et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Mais remarquant le vent, il eut peur, et commençant à couler, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus, tendant la main, le saisit en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es fils de Dieu. » Amen. Dans cet évangile, c'est au tour de Jésus de rechercher la solitude et le silence. Non pas pour se séparer de ses disciples, mais au contraire, pour mieux les rejoindre ensuite. Il obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Notre récit fait suite à celui de la multiplication des pains, un récit où il y a beaucoup de monde. Ceux qui avaient mangé, nous dit le texte, étaient environ 5000 hommes. Jésus a donné, il a donné, donné, donné en abondance. Et maintenant, c'est lui qui a besoin de recevoir. Il a besoin de recevoir une autre nourriture. Un père de l'Église du Moyen-Âge qui disait, un moine, qui disait que avant d'être canal, il faut être réservoir. Nous avons besoin parfois de nous laisser remplir pour ensuite pouvoir donner et déverser. Jésus a besoin de recevoir une autre nourriture. Alors comme Élie,
Ils se retrouvent dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là, seul. On ne nous en dit pas plus. On aimerait savoir, mais qu'est-ce que pouvait bien faire Jésus pendant tout ce temps, tout seul avec son Père? Eh bien, peut-être qu'il ne faisait rien. Rien d'autre que d'être en présence, justement, de son Père, de l'amour qui l'unissait si profondément, si uniquement avec son Père. Jésus recherche ses rendez-vous secrets, intimes, avec son Père céleste. Bien que la tendresse et la présence de Dieu se soient manifestées par lui au milieu des foules et ne cessent de se manifester par lui au milieu des foules, Jésus éprouve ce besoin de prier dans le secret de cet amour qui est l'amour du Père et du Fils, qui est cet amour qui fait qu'il ne fait qu'un avec le Père. Il a besoin de retrouver le silence en Dieu, le silence de Dieu, de réentendre la voix de celui qui se cache pour ne donner que la paix. Et Jésus nous invite à faire comme lui. Pour toi, dit Jésus en Matthieu 6,6, pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus se ressourçait dans cette communion avec le Père. Et c'est la force reçue dans cette solitude, précisément, qui l'a poussé à accomplir sa mission pour les autres. On raconte que Martin Luther, le réformateur du XVIe siècle, qui est à l'origine de la réforme protestante, avait des journées bien remplies. Il avait des sermons à faire tous les jours, des prédications, il recevait du monde. Il n'arrêtait pas de donner pour le Seigneur. Il raconte qu'il disait « Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire, je vais donc prendre encore plus de temps pour prier. » Le dire « j'ai pas le temps de prier », non, au contraire. Quitte à se lever un peu plus tôt, peut-être. Eh bien, voyez, Jésus faisait la même chose. Pour pouvoir mieux être avec les autres, pour pouvoir mieux éclairer les autres et les retrouver, il avait besoin de retrouver dans la solitude la présence du Père, la présence de Dieu, de se laisser remplir par cet amour dont il vivait absolument. Et c'est parce qu'il était rempli de cet amour de Dieu qu'il a pu se donner entièrement à tous. On le voit aussi prier seul au jardin de Gethsémané. Bon, là, il aurait bien aimé que ses disciples l'accompagnent un peu plus, mais enfin, parce qu'on a aussi besoin parfois que des frères et sœurs nous accompagnent dans la prière. Mais à Gethsémané, il prend le temps de prier avant l'accomplissement dernier de sa mission dans ses souffrances et sa mort. Dans le secret de la prière, Jésus s'unit au Père pour mieux rejoindre les hommes dans la puissance de l'amour de Dieu. Et c'est ce que décrit le passage suivant. La barque était battue par les vagues, le vent étant contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. Jésus vient à notre rencontre dans les tempêtes de nos vies. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Il n'est pas dans la tempête, mais il la domine. Il n'est pas la violence du vent, mais il est la paix dans cette épreuve. Il est le grand vainqueur sur les forces du mal et sur la mort, que signifiait la mer, les forces maritimes pour les Hébreux. Il révèle la présence de Dieu dans le calme qui suit la force des vagues. Ses disciples le comprennent-ils? Ils ont du mal à le croire. C'est un fantôme! Alors Jésus les invite à la foi. Maintenant, dans la barque secouée par les flots, ils peuvent recevoir de lui la paix, même dans la barque secouée par les flots, même dans vos épreuves, frères et sœurs, vous pouvez recevoir cette paix de Jésus. Confiance c'est moi. N'ayez pas peur. Jésus est la présence de Dieu dans les fragiles embarcations de nos vies. Seigneur, sauve-moi, lui crie Pierre. Aussitôt, Jésus, tendant la main, le saisit. Il est notre sauveur. Il est la main tendue dans nos détresses. Dans cette main tendue, dans le calme revenu, dans le salut accordé, car c'est ce qui nous concerne, nous avons reçu le salut, la main tendue de Dieu a accompli son salut pour chacun de nous. Et bien là, ses disciples le reconnaissent enfin. Dans la solitude de cette barque perdue au milieu des flots, un petit groupe d'hommes, tiens, comme celui-là, a rencontré le Seigneur. Dans la solitude d'une petite salle rue Fontaine de Rome, dans une petite ville appelée Lons-le-Saunier, un groupe d'hommes et de femmes, ce matin, a rencontré le Seigneur qui leur tendait la main. C'est un miracle magnifique. En prenons-nous conscience. En présence de Dieu, Élie s'était voilé le visage avec son manteau. Eh bien, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et lui dirent « Vraiment, tu es fils de Dieu. » Et dans cette salle de la rue Fontaine de Rome, des femmes et des hommes ont chanté la louange de leur Dieu, ont glorifié le Christ aussi, le Fils de Dieu. Loin des foules, dans la solitude, dans nos rassemblements communautaires, de différentes manières, et même au cœur de nos détresses, le Seigneur fait entendre sa voix et manifeste sa présence. Alors prenons à notre tour, continuons à prendre à notre tour, frères et sœurs, le temps de l'écouter dans la foi, dans les silences même de nos vies. Et apprenons à nos existences parfois trépidantes, apprenons à faire silence, afin qu'elles deviennent attentives à la voix du Christ qui dit à chacun de nous « Confiance, confiance et viens. » Amen.
Amen.
Eh bien, nous voici, nous aussi, Seigneur, ce matin, devant toi, dans le silence et la paix de ta présence. Merci pour ce culte qui a été pour chacun de nous un moment pour nous rapprocher de toi. Merci parce que c'est toi qui, le premier, t'es approché de nous. Peut-être que ce matin, nous étions dans la tempête. Peut-être que nous étions secoués par les vagues de soucis, de détresse, de fatigue, de questions. Mais toi, Seigneur, tu es venu nous tendre la main, ranimer notre confiance, apaiser notre peur, et nous inviter à te suivre sur ce chemin de la vie où tu ne cesses jamais de nous accompagner. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton salut, ton amour, ta présence, ton esprit au cœur de nos vies, ton esprit qui est ta présence, ta chaleur, ta lumière, au plus intime de nos faibles existences. Pardonne-nous nos péchés Seigneur et prends-nous pour toi, aujourd'hui et tous les jours de cette année et de notre vie. Amen.
Amen. On va t'accueillir du bureau, je vais préparer un petit texto pour les annonces.